Tout à Khatana Bar Mitzvah, un des choses moraïdes de Rabotaï. C'est Kachut Avia Khatana Bar Mitzvah, et la maman aussi, la famille, le grand-père, toute l'équipe, toute la famille, tous les sadikim qui sont venus. C'est pour moi une grande surprise d'être là la veille de Kippour. Je ne m'attendais pas à être à Ranana. À vrai dire, je ne m'attendais pas à être en Eretz Israël non plus. C'est la première fois de ma vie que j'ai le scout de passer les fêtes en Eretz Israël. Habituellement, je suis toujours amené à dire des shiurim en France pendant les 10 jours de Tshuva, en Angleterre, à Londres, un peu partout. Et cette année, j'ai eu le scout que ma femme, Baruch HaShem, elle accouche d'un petit enfant.
En Israël,
bien sûr, parce qu'on habite ici, on habite à Bnei Brak en fait. Et comme elle vient d'accoucher, que le petit enfant, il n'était pas transportable, j'ai eu le scout de passer les fêtes ici. Et Akadash Baruch Hu, peut-être qu'il m'a retenu ici, il a fait la naissance à ce moment-là, peut-être pour ce chiour-là, parce que je me demandais vraiment comment c'est possible que ce soit. Peut-être que pour être avec vous ce soir, Akadash Baruch Hu, il a fait que la naissance, elle soit si proche de ses fêtes. Alors ensemble, Bezrat Hashem, on va essayer de se renforcer pour s'approcher du jour de Kippour, pour savoir dans quel état d'esprit on doit se tenir le jour de Kippour. On va poser quelques questions ce soir, on va essayer d'y répondre ensemble. Et Bezrat Hashem, à l'initiative du papa du Bar Mitzvah, Monsieur Berry, il a beaucoup insisté, je vous assure, pour que je vienne, parce que c'était difficile. Comme je le dis, comme ma femme vient d'accoucher, c'est un peu difficile. On a deux petits-enfants, un qui a 14 mois, un qui vient de naître. Donc c'est dur quand ils sont très proches l'un de l'autre et tout ça. Ils font les sifrots jour et nuit. Il y en a un qui fait le jour, l'autre qui fait la nuit. Chacun, il est en train de faire
des sifrots. Pendant les 3 mois.
De ces rages. Non, mais je te dirai en privé, après c'est compliqué technique.
Je ne le connais pas. Je ne le connais pas.
Vous entendez? Alors voilà, j'essaye de... Ne rigolez pas trop, parce que comme ça passe sur Internet, s'il y a des brouhahs, ils vont s'énerver les gens. Je vous disais donc, à l'initiative du papa du Bar Mitzvah, on a voulu se réunir autour de la Torah et des Mitzvot, puisque Baruch HaShem, Rabotai, je suis ému quand je suis là ce soir. Parce que pour moi, ça s'appelle une vraie Bar Mitzvah. C'est ça une Bar Mitzvah. C'est que l'enfant, il rentre sous le hall de la Torah et des Mitzvot avec des divrei Torah, avec des divrei Chizuk. Qu'on lui montre la voie, qu'on lui montre le chemin, qu'on lui montre la Torah Bessimcha. Ça, c'est le Ham Israël, ça, c'est le peuple juif. Quand on voit malheureusement Bavonot et Noir Rabim aujourd'hui, les Bar Mitzvah, ça ne s'appelle pas des Bar Mitzvah, ça s'appelle des Bar Avera. Ils amènent les gogo danseuses là-bas du truc. Il y a des gars qui arrivent en hélicoptère, en saut en élastique. Ils amènent des gens qui font des danses folkloriques et tout ça. La Bar Mitzvah, Rabotai, c'est le fait de rentrer dans la Torah et les Mitzvot. Tu deviens le fils de la Mitzvah, le fils de l'obligation qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi, que t'es son fils, que t'as le sroud de faire partie des enfants d'Hashem Yitvarach. Bani Matem Hashem Lokechem. Quand tu viens, que tu t'es réuni autour de ton patrimoine, autour de ta Torah, de tes Mitzvot. Quelle plus belle entrée d'un Bar Mitzvah. C'est mieux qu'il rentre comme un Hollywoodien ou comme un Bnei Braki ou comme un Yerushalmi. Il vaut mieux qu'il arrive là-bas avec des hélicoptères et avec des soins en élastique. Halam Aboul, il va s'écraser là-bas après. Il vaut mieux qu'il arrive comme un tzadik ici. Voilà, il a fait son entrée dans la Torah, les mitzvot et ses livrets Torah, ils vont l'accompagner toute sa vie. Il se rappellera de ce moment extraordinaire qu'il a eu, le sroud de passer. Il a eu le mérite que des gens viennent parler, de faire des livrets Torah. Et je vous dis, un d'avoir au maître du Fnei Ratson. Moi, je vous dis, il m'a appelé hier. Moi, jamais, d'habitude, je viens du jour au lendemain comme ça. On a des programmes, des trucs et tout ça. Et même, je voulais faire tchouba ce soir. Normalement, on ne vient pas parler avec les gens. On s'enferme chez nous et on commence à faire cheshbon nefesh. On fait l'examen de conscience, on fait le bilan pour se présenter devant Akadosh Baruch Hu. On ne vient pas comme ça dire des livrets Torah, normalement, la veille de Kippour. Mais j'ai vu qu'il a tellement eu cette ava et ce ratson, cette volonté. Il m'a prié beaucoup avec tellement d'insistance. Je ne pouvais pas le décevoir. Et Bezrat Hashem, si vous avez la même volonté de faire que vos enfants soient des Talmidei Chachamim et que vous êtes des exemples pour eux, que vous vous adonnez à la Torah et aux mitzvot, alors de la même façon que moi je suis arrivé comme un extraterrestre ici, vous pourrez avoir des Talmidei Chachamim Gdolim dans votre famille, Bezrat Hashem. Je vais vous poser quelques questions, Bezrat Hashem. Et on va beaucoup se renforcer, Bezrat Hashem, ce soir, quand on soit venu, Bezrat Hashem, pour quelque chose, que chacun il ait eu le scout de se déplacer pour honorer le Bar Mitzvah et qu'on puisse l'honorer par des divrei Torah extraordinaires. On a posé une question classique qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Comment se fait-il que la fête de Kippour, elle est après la fête de Rosh Hashanah? Généralement, on aurait dû voir l'inverse, parce que généralement, on veut d'abord se faire pardonner de nos fautes et par la suite se faire juger. Comment, quel est l'homme qui aurait la folie de se faire juger avant d'avoir demandé pardon au juge, au Dayan Ahmed, au juge de vérité qui est à Kadosh Baruch Hu? Une autre chose qui va dans le prolongement, comment c'est possible que toi tu viens faire la fête du trône d'Hachem Yidbarach. Tu viens faire la fête du trône. C'est quoi Rosh Hashanah? Cette mamlir HaKadosh Baruch Hu dans nos vies, faire régner Hachem avec nous. Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, Zochrenu Lechaim. On lui dit HaKadosh Baruch Hu, les manchay Elokim Chaim, tout ce que je te demande c'est pour toi, c'est toi le roi du monde, c'est toi le roi de l'univers. Et le yesod de toute la tfila de Rosh Hashanah, Galek Vod Malchutra Beolam. Dévoile le kavod de ta majesté, dévoile ta splendeur. HaKadosh Baruch Hu, reviens avec nous, sors-nous de la galoute, sors-nous de l'exil, sors-nous des illusions du Olam Hazeh. On prie HaKadosh Baruch Hu de tout notre cœur, c'est ça qu'on demande. Mais quand on vient faire la fête du trône, on est en train de louer Hashem Yidbarach. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord mettre des habits qui sont en conséquence? D'abord, quelqu'un doit se laver de ses fautes. On vient melouchlar bechet, on vient avec toutes les fautes qu'on a eues, avec tout le cambouis et toute la boue qu'on a emmagasinée pendant toute cette année. Et on vient commencer à faire la fête du trône, la fête du roi. Est-ce que ce n'est pas une chutzpah? Est-ce que ce n'est pas de l'effronterie? Est-ce que ce n'est pas une folie de venir devant le roi alors qu'on n'a pas encore lavé nos habits? On sait que la tchouva, c'est quelque chose qui a une vertu. C'est un lavomatique, la tchouva. C'est une douche. À la manière du marboul, là-bas, le chien, comment il s'appelle déjà, le labrador, là. Je ne me rappelle plus. Comment il s'appelle ce chien là? Beethoven. Vous vous rappelez de Beethoven? Il se roulait dans la boue et tout ça. Après, on lui passe le tuyau là-bas, on va le laver comme il faut. La tchouva, ça ressemble à ça. Toute l'année, on s'est roulé dans la boue des averot, dans la boue des mauvaises choses qu'on a fait. On vient. Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, tu vas nous pardonner nos fautes et tu vas nous pardonner, tu vas nous sanctifier, d'un vent de Kedusha et de Tahara, d'un vent de lumière qui va nous envahir et qui va nous départir de toutes les altérités qu'on a emmagasinées tout au long de l'année. À partir du moment où toi tu as réussi à faire cette chose-là, alors tu peux te présenter et commencer à parler devant le roi et à dire son kavod. Alors comment se fait-il que la fête de Kippour, elle est après la fête de Rosh Hashanah? D'abord on aurait dû faire Kippour et après, Rosh Hashanah. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo rapporte, et les Acharonim également, l'auteur du Shulchan Aruch, il ramène que, on sait très bien que durant cette période des Aseret Yemei Teshuva, il y a une yann de faire des midat achasidut, c'est-à-dire de prendre sur soi des mesures de piété qu'on ne sera pas forcément à même de tenir pendant tout au long de l'année. Par exemple, si quelqu'un avait l'habitude de manger du pain qui a été cuit par des goïms, on sait que la Torah interdit de manger des plats qui sont cuisinés par les goïms de peur d'en venir à s'assimiler avec eux. Il y a une coula, une tolérance qui a été prévue pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent acheter des baguettes et du pain. Ça, on a le droit de les manger, mais les autres plats, c'est une interdiction formelle de la Torah. Ça, on n'a pas le droit de manger le bishul goy. Mais la Torah a interdit, elle a permis par contre de manger du pain qui a été cuit par des goïms. Ceci étant, pendant les 10 jours de tchouva, nous dit le Mechaber, Maran Rabbi Yosef Karo, il nous dit qu'on doit faire attention de prendre sur nous des mesures de piété, de ne pas manger du pain de goïm pendant ces 10 jours. On devra faire en sorte de faire soit son pain personnel, soit d'aller à la boulangerie et d'allumer soi-même le pain pour pouvoir faire en sorte de ne pas manger un pain de bishul goï. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui rapporte, d'un façon pour le chalav nochri. Il y a des halakhot qu'on doit boire du lait surveillé. Certains disent que c'est mikaradin, d'autres disent que c'est des khumrot. Ça veut dire que c'est des mesures de piété. Celui qui a l'habitude de boire du lait qui n'est pas forcément surveillé, dans les pays dans lesquels l'amende est telle que quelqu'un ne pourrait pas se risquer, parce que c'est quoi le problème de boire du lait non surveillé? C'est qu'on va prendre du lait de truie et qu'on va le mélanger avec le lait de vache. Et on sait que c'est un clal dans la Gemara, que ce qui sort de quelque chose de pur, c'est pur, ce qui sort de quelque chose d'impur, c'est impur. Donc de peur qu'on en vienne à faire ce mélange-là, on a interdit et on a préconisé de faire en sorte de faire un lait chameau. Ceci étant, c'est une mesure de piété que la Torah l'a demandé. Maintenant, pendant les 10 jours de tchouva, on nous dit que ça, c'est devenu la halakha, et qu'il faut faire attention de prendre sur nous, de ne plus boire que du lait qui a été surveillé sur une surveillance rabbinique très très importante. Moraï Birabotai, qu'est-ce que c'est que cette tchouva? On est en train de nous dire de faire tchouva sur des mesures de piété, mais qu'est-ce qu'il en est de toutes les autres choses qu'on devrait faire sur la tchouva? Il y a tellement d'autres choses à changer. Deuxième chose, toi tu sais très bien, tu es en train de faire du cinéma devant Akadosh Baruch Hu. Tu sais très bien qu'après les 10 jours tu vas remanger le pain. Tu sais très bien qu'après les 10 jours tu vas continuer à boire ton lait. Alors pourquoi pendant ces 10 jours-là tu vas te déguiser en tzaddik? Tu vas venir avec cette apparence-là de tzaddik et tu vas dire ah voilà j'ai fait tchouva et tout ça, maintenant regarde comment je mange du pain, que qui a été cuit par les Israël, je suis un grand tzaddik. Ce que les grands tzaddikim, les grands rabbanim font, moi je le fais, je me suis déguisé en tzaddik et tout ça. Rabotai, c'est quoi la secte tchouva? C'est un cinéma, c'est une comédie, qu'est-ce qu'on est en train de faire devant Kadash Baruch Hu? Voilà les deux questions qu'on va se poser ce soir, Bezrat Hashem. Et comme vous savez que pour répondre à des questions, on pose toujours des questions. On va voir dans des Gmarot et un Midrash Rabba qui rapportent des histoires extraordinaires qui se sont passées il y a quelques centaines d'années. il y avait un homme qui s'appelait Eliezer Ben Dourdaïa, une Gemara dans Maseret Avodah Zarah, à la page 10, 17, folio A, rapporte l'histoire, la surprenante histoire de Eliezer Ben Dourdaïa. Eliezer Ben Dourdaïa, c'était un homme qui s'était perverti avec toutes les prostituées de tous les continents. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle femme qui était sur le marché, il se transportait d'un continent à l'autre et il dépensait tout son argent pour aller s'adonner à ses relations interdites avec ces femmes de petite vertu. Jusqu'au jour où une femme lui a fait de la morale, elle lui a dit, Eliezer Ben Dourdaïa, il y a eu un vent qui est sorti à ce moment-là. Il a dit, de même que ce vent-là est sorti, il ne reviendra jamais, de même ta tchouva ne sera pas agréée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Eliezer Ben Dourdaïa était tellement blessé de ça, il s'est dit, je suis arrivé à un degré tellement bas, je me suis tellement dégradé que même les filles de petite vertu peuvent me faire la morale. Où c'est que je suis tombé? Où c'est que je suis arrivé? Combien je me suis dégradé? Où est mon étincelle? Où est ma kdusha de Ben Israël? À ce moment-là, il a décidé de faire teshuvah. Et la Gemara nous rapporte que quand il a voulu faire teshuvah, il ne s'est pas adressé à Kadosh Baruch Hu. D'abord, il s'est adressé au ciel et la terre. Shamayim baaretz, bikshu rachamim alay. Le ciel et la terre, implorez miséricorde pour moi, pour que Kadosh Baruch Hu me pardonne des fautes que j'ai commises, parce que je me suis trop perverti, je suis arrivé à un point de non-retour. Le ciel et la terre lui ont dit, avant qu'on puisse demander miséricorde sur toi, on doit demander nous-mêmes miséricorde sur nous. On a des porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu. C'est difficile ce qu'on a avec Hachem, donc on peut pas demander miséricorde sur toi. Il a demandé après à la lune et aux étoiles, après il a demandé au soleil, il a demandé aux arbres. Personne n'a pu répondre présent pour lui. Jusqu'à ce que ce Eliezer Ben Dourdaïa, il a pris conscience du Pirkei Avot de Hillel HaZaken. Premier Pirkei Avot, premier chapitre, 12e Pirkei Avot, je crois, si jamais je ne suis pas pour moi, alors qui le sera? Si jamais je ne prends pas ma défense et que je ne prends pas sur moi de faire teshuvah chez les mains, personne ne pourra le faire à ma place. Il s'est assis, il a mis sa tête entre ses jambes, il a commencé à pleurer, à se repentir, et plus il pensait, plus il voyait à quel point il s'était enfoncé dans les Averot. Jusqu'à ce qu'il arrive à un matzav où il était bedvekut ba Kadosh Baruch Hu, il a connu Akadosh Baruch Hu sans cette teshuvah, jusqu'à ce qu'il rende son neshama à Kadosh Baruch Hu. Sa neshama est montée. Yatsabat kol ve'amra, Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, Mouzman lecha yolam haba. Une voix céleste est sortie et a dit, Rabbi Eliezer, c'était Eliezer ben Dourdaïa, le plus grand perverti de la génération. Il devient en un instant, Rabbi Eliezer ben Dourdaïa, Mouzman lecha yolam haba. Il est invité au monde futur, nous dit Tosfot, dans des autres endroits de la Gemara. C'est quoi Mouzman lecha yolam haba? C'est qu'il est rentré sans din ve'cheshbon. Il est rentré sans jugement céleste. Et on sait que le jugement, c'est quelque chose qui fait très très honte à la personne. On lui montre son film, il a des caparotes à faire, il a des réparations dans sa neshama. Il doit passer là-bas dans l'hôpital qui s'appelle le Geinam pour, de la même façon que quelqu'un il se casse le bras, il doit se réparer le bras. C'est pas une punition, c'est une réparation. De la même façon, il doit passer pour réparer les choses qu'il a commises. Il est arrivé directement sous le Kisakavad par le Sro de Zatchouba. Moraï Berabotay, on peut se poser une question ici. Comment c'est possible qu'un homme qui était le plus grand perverti du monde, en un instant, il arrive sous le Kisakavad d'Akadosh Baruch Hu et on l'appelle Rabbi Eliezer Ben Dourdaïa. Et la Gemara poursuit, Bacharebi, Vehamar Yeshpone Olamo Beshahat. Rabbi Yehuda Nassi, qui était le maître de la génération, a pleuré. Il a dit, assurément, il y en a qui acquièrent leur part au monde futur en un instant. Et il y en a qui acquièrent en longtemps. Il a commencé à verser des larmes, Rabbi Yehuda Nassi, le grand tzaddik, la grande lumière du Ham Israël. Et après, il a dit, L'Odayam les balets de Chouva, Shek, Mekablim, Otam, Menachekarou, Laim Revi, ça ne suffit pas que les balets de Chouva soient reçus dans le ciel. Mais on les appelle en plus Rebi. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? On pourra, Bedrat Hashem, si on a un peu le temps, expliquer la profondeur de cette Gemara, quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, la question qui se pose ici, comment se fait-il qu'un homme peut passer du meilleur au pire en un instant, en un regard, en quelques instants de sa vie? Il était le plus grand perverti du monde et il devient le Kadosh Elion de la génération, le plus grand sadique de la génération. Ça, c'est encore une autre question. Une autre histoire qui est relatée dans le Midrash Rabbah. On rapporte qu'au temps de la destruction du Beth Amikdash, pendant qu'il y avait des xérot kachot, des décrets difficiles sur le Ham Israël, et que le Beth Amikdash était sarouf, il était brûlé, et qu'il y avait des destructions terribles, les Romains ont détruit ce Beth Amikdash. Ils sont venus, ils avaient peur, ces Mzrobim là-bas de Romains, ils avaient peur de rentrer dans le Beth Amikdash pour extraire les objets saints, pour extraire les objets sacrés. Alors ils ont commencé à se dire, comment on va faire pour amener? Il dit, on va faire entrer un Ben Israël là-bas, un juif. Lui, il a le droit de rentrer dans le Beth Amikdash et il va nous sortir les choses. Ils sont venus à la recherche d'une personne qui était capable de remplir cette mission. Ils ont trouvé un homme qui s'appelait Yosef Meshita. C'est Yosef Meshita, ils lui ont dit, écoute mon ami, tu vas rentrer là-bas, la première chose que tu sortiras, elle sera pour toi, et toutes les autres choses que tu sortiras, elles seront pour l'empereur. » Il est arrivé, Yosef Meshita est rentré, Rabotai, et quel azout et quel chutzpa il faut pour pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash détruit et collaborer avec l'ennemi. C'est quelque chose que la personne, elle se trouve dans une situation de malchinime, de délateur et de collaborateur, que il est indigne de, c'est possible qu'il est indigne de Chayav Mita, qu'il a une peine de mort normalement pour ce qu'il est en train de faire. Yosef Meshita rentre et là-bas il n'est pas sorti n'importe quoi, il a sorti la menorah. Alors quand ils ont vu qu'il est rentré, il est sorti avec la menorah, ils ont dit Habibi, dit la menorah c'est la dignité royale, ça c'est pour l'empereur, toi tu peux pas avoir la menorah, donc cette menorah elle sera pour l'empereur. Rentre une autre fois maintenant et tu vas aller chercher un autre objet qui sera pour toi cette fois-ci. Il lui a dit je rentrerai plus là-bas. Il lui dit comment tu rentreras plus? Il lui dit je rentre plus là-bas. Il lui dit tu vas rentrer. Hegdek tu vas rentrer. Il lui a dit dis ne moque. Tu vas pas, si tu rentres pas, je te donne la treha faras. Ils lui ont dit au début, ils ont voulu le être méfaillés, surtout le séduire avec. Ils lui ont dit si jamais tu rentres, on te donnera plus, tous les plus grands milliards de l'Empire, ils seront pour toi, tu vas être l'homme le plus riche. Je rentre pas. Tu auras les plus grandes dignités, tu feras partie du gouvernement et tu seras le second de l'empereur. Tu vas avoir des choses qui seront incroyables. Je rentre pas. Il lui dit, puisque tu comprends pas le lachon de l'amour, on va te faire comprendre le lachon des coups. Si jamais tu rentres pas tout de suite dans le Beth Amikdash pour sortir les choses, on va t'écarteler et on va te traîner dans la ville avec des chevaux. Il lui dit, je rentre pas. Jusqu'à ce qu'ils ont leur sang, comme on dit, il a fait un tour, je sais pas comment on appelle ça. Ils sont rentrés, ils l'ont pris. Ils l'ont écartelé avec deux chevaux, ils l'ont traîné là-bas dans la ville. Il s'est fait esquinter, il s'est fait lapider dans toute la ville. Rabotai, quand ce Yosef Meshita, il était en train de traîner dans la ville, qu'est-ce qu'il était en train de crier? Il n'était pas en train de crier malheur à moi qui ai fait teshuva et regardez ce qui m'est arrivé, tzadik veralo, regardez le tzadik, le mal qu'il reçoit, zotora vezosrara, voilà la teshuva et voilà le salaire de la teshuva. C'est pas ça. Il était en train de crier Oili Sheikhasti et Bouri, Oili Sheikhasti et Bouri. Malheur à moi qui ai énervé mon créateur. Malheur à moi qui ai énervé mon créateur. Et c'est ce qu'il a voulu leur répondre à cela. Ils lui ont dit mais tu vas pas rentrer, tu seras le plus riche du monde. Tu vas prendre les plus grandes tous les plus grandes tikkunim du monde, tu vas les prendre sur toi, on va te terrasser. Il lui dit ça suffit que j'ai énervé mon créateur une fois pour l'énerver une deuxième fois. Mourad Birabotai, encore une fois la même question qu'on se pose depuis le début de ce chiot. Comment un homme qui était digne d'être un délateur parmi les Bnei Israël, la personne la plus basse et la plus abjecte du Ham Israël, en un instant, il peut mériter de devenir un martyr. Il peut mériter de mourir al Kiddush Hashem et de revenir directement à Kadosh Baruch Hu et de remonter au ciel. Comment c'est possible que quelqu'un, en quelques secondes, il passe de ce matzav du pire rachat au plus grand tzaddik de sa génération qui est prêt à rendre sa neshama en sanctifiant le nom de Dieu et regardez, voilà ce qui arrive à celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à donner sa vie. Elle dit la Gemara dans Brachot, c'est quoi? Quand bien même on me demanderait de rendre ma neshama à Kadosh Baruch Hu, je la rendrai avec plaisir. Et voilà qu'il est parti en disant Oili Sheikhasti et Bouri. Mourad Birabotai, comment ils sont capables ces gens-là d'arriver à une darga à un niveau tellement extraordinaire? La réponse à ces deux questions-là nous aidera à comprendre la réponse aux questions qu'on a posées au départ. Qui était de savoir pourquoi on fait d'abord la fête de Kippour après la fête de Rosh Hashanah et pourquoi on se déguise en tzaddik pendant 10 jours si jamais on sait que pendant le reste de l'année on sera peut-être pas méritant de le faire. La réponse à cette question, mes chers amis, c'est que quand Eliezer ben Dordaya, quand il a commencé à faire teshuvah, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu d'une façon extraordinaire. Il nous dit à Ben Yona, comment un homme il peut mériter de faire teshuvah? Il faut qu'il arrive à avoir le même regret, la même hitplavout dans le regret qu'il a eu d'avoir transgressé la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le même éveil spirituel et le même empressement que la simcha que lui ont procuré les Averot. Tout le bien-être et le bonheur illusoire, les plaisirs, pardon, c'est pas du bonheur, c'est du plaisir, c'est quelque chose d'éphémère et qui passe, qui n'est une illusion de ce monde. Tout ce plaisir-là, en tout cas, c'est un plaisir, force est de constater que le corps jouit de cette chose-là. La jouissance qui est procurée par la Avera, la tchouva doit être une tchouva qui va faire en sorte de réparer avec un tsar et avec une souffrance, soit avec de la joie de servir à Kadalbo, soit avec une tristesse, et pas une tristesse, une souffrance profonde et un regret et un remords et un repentir sincère qui est aussi fort que la joie que ça nous a procuré. Et Eliezer ben Dordaya, il était en train de se renforcer et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il a atteint des dargotes, des degrés spirituels extraordinaires jusqu'à ce qu'il se rapproche avec une intensité dans sa tchouva qui l'a ramené jusqu'à Hashem Yidbarach. comme c'est marqué dans le Pasouk, Tshuva ad Hashem Elokecha, reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu. C'est ça le shiur de la Tshuva. La Tshuva, c'est pas je fais Tshuva, je vais me faire Tshuva, une petite Tshuva. Je fais Tshuva jusqu'à ce que j'arrive à Akadosh Baruch Hu, bien sûr, avec une progression. C'est pas qu'on va devenir Moshe Rabbeinu du jour au lendemain. Mais il faut pas se dire, voilà, moi j'ai des limites et je m'arrête là. Non, tu dois revenir jusqu'à ce que tu sois, que tu aies atteint le Kissa Kavod. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a commencé à faire une Tshuva sincère. Il s'est repenti, il a prié, il s'est renforcé, il a fait Messirut Nefesh, et là il a goûté à un sentiment Rabotai, que quelqu'un qui goûte ce sentiment dans sa vie, il n'a plus envie d'aller dans le Olam Hazeh, il n'a plus envie d'aller dans les illusions de ce monde, il veut se retrouver avec Akadosh Baruch Hu, il veut être Midabek, Bashechina, Bezif Penasherina, il veut faire une Dvekut Bashem, s'attacher sa Neshama pour jouir de la splendeur divine dans le Olam Haba, il n'a plus rien à faire avec ce monde-là. Il s'est tellement sanctifié, il s'est tellement attaché, il a tellement vu la plénitude qu'il avait d'être proche d'Hachem, qu'à ce moment-là, il s'est dit, ça y est, il n'y a plus rien qui peut me retenir dans ce monde. Je dois remonter auprès d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, cette Teshuvah lui a fait atteindre des degrés de proximité avec le Créateur qui sont invraisemblables et inconcevables et imperceptibles. Personne ne peut comprendre une chose pareille. C'est un degré qui est merveilleux. À ce moment-là, il a dit, ça y est, je suis monté jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et c'est sur ça qu'ils ont pleuré. Rabbi, il a pleuré parce qu'il a vu comment cet homme-là, en quelques secondes, il a été zoché de faire ce que des gens, en plusieurs générations, ils n'ont pas réussi à une tellement grande proximité avec le Créateur. Mais tout dépend d'une chose, Rabotai, de la décision qu'on prend de devenir un Gadol, de la décision qu'on prend de devenir un Baal Teshuvah sincère. On a pris la décision, on a le Ratson, on a la volonté profonde. On va mettre tout notre cœur dans cette chose-là. En un instant, le tzaddik, il n'attend pas les années. En un instant, il peut devenir un tzaddik qui est sodolam. C'est pour ça qu'il est arrivé jusqu'à ce qu'il a rendu sa neshama à Kadosh Baruch Hu, tellement il était avec une dvekut bashem tellement puissante et tellement forte. La même façon, Yosef Meshita Rabotai, Rav Yaakov Hadass explique, je crois, au nom du Harizal, comment c'est possible qu'il soit devenu ce collaborateur, un homme tellement grand et tellement pieux et tellement puissant et tellement proche d'Hashem Yitbarach. Il est rentré dans le Bet Kotchi HaKodashim, il est rentré dans le Bet Amigdash. Quand tu rentres dans le Bet Amigdash, Habibi, tu sens la proximité avec Hashem comme tu ne peux jamais ressentir dans ta vie. Tu sens comment tu es proche d'Hachem Yitbarach, tu sens comment Hachem il est avec toi, comment c'est magnifique, comment c'est doux de sentir le souffle d'Hachem sur ton visage. Tu sais ce que c'est de rentrer au Bet Amigdash, le Gaon de Vilna qui connaissait toute la Torah de Aleph à Tav et de Tav à Aleph, il connaissait toute la Torah Kula. C'est celui qui a inventé le verlan. C'est là, j'entends des blagues sur le verlan. Le Gaon de Vilna, il connaissait toute la Torah à l'endroit et à l'envers. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est de dire Ashrei Yoshev Betera à l'endroit et à l'envers déjà. Donc il le disait chaque jour, on ne sait même pas le dire, la première phrase. Alors imaginez-vous, le Gaon de Vilna, il avait toute la Torah dans sa poche. Dans le creux de sa main, il avait toute la Torah Kula. Il a dit, moi, je suis capable d'échanger toute ma Torah contre le fait de rentrer en Eretz Israël pour aller au Bet Amigdash. Pourquoi? Parce que le tahlit de la Torah, la finalité de la Torah, c'est de sentir la proximité avec le Créateur qui nous neutralise toutes les tserara, toutes les fautes et qu'on ne peut plus jamais fauter. Quelqu'un qui a senti une fois dans sa vie cette proximité très puissante, de Yetzerara et l'illusion de ce monde ne peut pas rentrer en corrélation avec lui, il ne peut pas rentrer en confrontation parce que ça a l'air d'être illusoire, ça a l'air d'être des choses vaines et illusoires, c'est rien, ça n'a pas de substance, c'est quelque chose de bas, c'est pas consistant, tu ne peux pas échanger ça contre ça. Il dit, j'en étais prêt à donner toute ma Torah Kula pour entrer dans le Bet Amigdash pour sentir cette douche de plénitude et de proximité avec le Créateur. Rabotai, il est rentré une fois dans le Bet Amigdash. Yosef Meshita, il a dit, je ne pourrais plus jamais rentrer là-bas. Parce que quand j'ai vu ce que c'est d'être avec Hachem, quand j'ai vu ce que c'est d'être proche de mon Créateur, c'est impossible que j'aille refaire des Averot. Parce que je sens, avant je ne savais pas, j'étais un Tinoch chez Nishba. Helmougli, le roi de la jungle là-bas. Celui-là, il est né dans la jungle, il ne sait pas ce que c'est la Torah, il ne sait pas ce que c'est les mitzvot. Il n'a jamais vu ce que c'est dans sa vie. Mais il a goûté à la Torah, il a goûté à cette lumière extraordinaire qui lui a envahi sa neshama, qui lui a envahi son âme. Il ne pourra plus jamais faire d'Averot. Et c'est pour ça qu'il a été prêt à rendre sa neshama avec Kiddush Hachem. Il dit, qu'est-ce qui peut égaler le fait d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que je vais perdre ma proximité que j'ai eu avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, ce sentiment-là magnifique que j'ai eu à ce moment-là, est-ce que je peux l'échanger contre des milliards? Est-ce que je peux l'échanger contre des souffrances qu'on va me faire? Mais j'en ai rien à faire de tout ce qu'il me propose. L'essentiel, c'est que je sois proche d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, avec ces réponses-là, on va répondre aux questions qu'on a posées. Pourquoi on fait d'abord Kippour et après on fait Rosh Hashanah? Pourquoi on fait d'abord Rosh Hashanah et après on fait Kippour? Les David Hashem Uri Veishi Mimeira. Le Tehilim qu'on lit pendant cette période du mois d'Eloul. Et David, nous dit le Midrash Rabba sur place. C'est quoi le David? Ori Veishi. Ori, c'est Rosh Hashanah. Veishi, la lumière, c'est Rosh Hashanah. Veishi, le sauvetage, c'est Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire Ori Veishi? Le jour de Rosh Hashanah, c'est bien connu qu'on ne doit pas être masqué le chet. On ne doit pas mentionner les fautes qu'on accomplit. Le jour de Rosh Hashanah, il est fait que pour pouvoir glorifier Hachem Yitbarach, sanctifier Hachem et proclamer son unicité et sa royauté dans le monde. Ça s'appelle la lumière. Pourquoi ça s'appelle la lumière? Le jour de Kippour, par contre, c'est quelque chose qui est fait pour faire en sorte de se faire pardonner des avérotes qu'on a fait. Là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Mouraï Berabotai, quelqu'un qui a goûté à la lumière extraordinaire de Rosh Hashanah, qui a goûté à cette proximité avec son Créateur et qui s'est rapproché de lui d'une façon extraordinaire, qui a vu comment c'est merveilleux d'être avec Hachem, que toute la journée il a pris comme un malach, il s'est tenu debout et il a commencé à faire son moussaf, il a commencé à faire les chauffarotes, les irklonotes, les malchouyotes, il a fait régner Hachem dans sa vie, il a fait régner Hachem sur lui. Celui-là qui a senti cette lumière intense d'être proche de son Créateur, il comprend qu'il doit demander pardon. Quand il arrive à Kippour, il voit que c'est Averot, qu'est-ce que c'est une Avera, c'est quelque chose qui t'éloigne de ton Créateur. Il comprend qu'est-ce qu'il a perdu, et alors là il sait ce qu'il doit retrouver. Mais s'il n'a pas senti cette lumière intense, sur quoi il va demander pardon? Mais moi je suis très bien, qu'est-ce que je vais demander pardon? Mais moi j'ai ma BMW, j'ai ma Porsche Ferrari, j'ai ma maison avec la piscine et le jacuzzi, qu'est-ce qu'il y a, qui est mieux que moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Si jamais tu avais fait Kippour, tu n'aurais pas pu savoir sur quoi demander pardon. Quelqu'un, il sait sur quoi prier une fois qu'il sait ce qu'il a perdu. Quand il voit que les Averot, c'est ce qu'il a éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, Kerubi Otokarov, appelez-le, Dirshu Hashem Imatsu, Kerubi Otokarov, appelez Akadosh Baruch Hu quand il est dans votre proximité, quand il est à côté de lui, invoquez son nom. On nous parle des 10 jours de Tshuva où Akadosh Baruch Hu, il est là pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour. C'est un moment de proximité qu'il n'y a pas pendant toute l'année. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui vit ce sentiment de plénitude et de proximité. À ce moment-là, il comprend comment c'est merveilleux d'être avec Hachem. À ce moment-là, il va vouloir se débarrasser de cette pellicule de graisse qui fait en sorte de rendre hermétique sa neshama à la lumière de la Torah Akdosha. Il va vouloir faire en sorte de faire un lavage intensif de toutes ses avérotes pour pouvoir faire en sorte de faire corps et qu'il n'y ait pas un écran entre sa neshama et la lumière de la Torah Akdosha. À ce moment-là, il sait sur quoi demander pardon. Il sait qu'il va venir se faire pardonner de toutes ses fautes. Ori Veishi, une fois que j'ai vu la lumière éblouissante et intense d'Akadosh Baruch Hu, alors là, je peux devenir demander son sauvetage. Je peux demander Ribono Shalolam, sauve-moi des Averot. Fais en sorte que je ne tombe plus jamais, que je ne m'éloigne plus jamais de toi, que je ne perde plus jamais ce sentiment de proximité merveilleux que j'ai atteint. Ce sentiment que je peux atteindre à Rosh Hashanah, qui a été atteint par Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. Quand il a fait cette tshuva chez Nema et qu'il s'est attaché, ce sentiment qui a été atteint par Yosef Meshita qui a fait tshuva chez Nema quand il est rentré dans le Beit HaMikdash, il a vu, il n'y a plus de faute à Kadosh Baruch Hu, là je peux demander pardon, là je peux te demander quelque chose d'extraordinaire. Rabotai, je vous dis, quand je dis ce Dvar Torah, je deviens ma boule, parce que je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a éclairé les yeux, il a eu pitié de moi, il m'a donné cette interprétation magnifique il y a quelques jours, et je la partage aujourd'hui pour la première fois avec vous, je suis tellement content de ça, c'est magnifique la Torah Rabotai. Et je te dis à toi mon frère le Bar Mitzvah, moi j'étais un maboul avant, j'ai marché dans la vie, j'ai fait une maîtrise de droit international, j'étais président européen des associations communautaires et tout ça, j'avais des gens qui scandaient mon nom comme dans la pelouse et tout ça, comme un maboul, alors j'étais de la poussière, on m'appelait alors que je ne savais même pas ce que j'avais fait dans ma vie. J'ai fait des planchettes japonaises, j'ai fait les championnats de France de judo, j'étais première dame de judo, la ceinture noire, je pourrais vous faire des planchettes japonaises, après mais c'est un peu haut là, c'est un peu dangereux. J'ai mis des reprises de volets dans la lucarne légendaire, si jamais un jour vous faites un foot, essayez de ça, vous m'appelez, je viens vous montrer des petits ponts et tout ça. J'ai fait tout dans ma vie, mais je peux te dire, il n'y a pas un sentiment plus grand que de dire un Dvar Torah et de se sentir ébloui et envahi par cette lumière. Il n'y a pas, tu ne peux pas trouver dans ta vie, je te dis, je suis passé par tous les chemins et j'ai vu des riches, j'ai vu des pauvres, j'ai vu toutes sortes de gens, je vais parler dans le monde entier, je vois des gens qui ont des milliards dans leur compte en banque, tu les vois, ils pleurent devant des divrei Torah, ils se disent qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien du tout, ils sont cloum. La Torah Kdosha, c'est ce qui te réjouit, ce qui te réchauffe le cœur. Tu vois ces enfants de Meacharim, ils ont 3 bambas dans leur poche, et c'est les plus heureux du monde, et les types de Wall Street là-bas, ils ont des milliards, ils ont la tête de Tchadab toute l'année. Comment c'est possible? Parce que Torah Temet, Habibi, Torah Temet, c'est la Torah qui te réjouit. C'est cette Torah Kdosha qui va te faire vivre et qui va être Mechaye Otra et qui va te donner la Simchat Chaim toute ta vie. Et c'est ce que je vous dis, ce jour-là de Rosh Hashanah, l'homme il peut sentir cette écoute et cette proximité avec son Créateur que Yosef Meshita il a ressenti, que Rabbi Eliezer Ben Dourdaya. Et à ce moment-là, quand il a vu la lumière, Ori Veishi, là je peux demander le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu, que plus jamais je m'éloigne de lui, que plus jamais je fasse des fautes, et que les fautes que j'ai faites, qu'elles ne me tiennent pas à distance d'Akadosh Baruch Hu, que je revienne jusqu'à Akadosh Baruch Hu, mon Dieu. Et la deuxième question qu'on a posée, on se demandait une question là-bas. Comment ça se fait que toi tu t'es déguisé en tzaddik? Pendant 10 jours, toi tu viens, tu te déguises en tzaddik. Tu prends Akadosh Baruch Hu pour qui? Tu crois qu'il ne sait pas ce que tu vas faire? Tu crois que tu ne sais pas après les 10 jours tu vas abandonner ce que tu es en train de faire et tout ça? Pourquoi tu fais le malin? Pourquoi tu fais le fourbe? Tu fais les fourberies de ce capin là-bas. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas cité celui-là. Vous vous rappelez de lui, ce marboule là. Il m'est resté dans la tête ce chèvre, cette chèvrefeuille. Écoutez-moi bien, Rabotaï, écoutez bien ce pchat qu'on a des occasions de découvrir, Bessiata Dishmaya. C'est mon maître, Rav Yosef Ben Tata de la Yeshiva d'Or HaChaim, qui m'avait dit une fois ça. Je vais vous raconter l'histoire de Louis de Funès. Je sais que vous n'y attendez pas. Louis de Funès, ce marvoul là, c'est marqué que. On raconte sur lui qu'avant, avant, c'était un antisémite notoire. Pas beaucoup de gens il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ces choses, vous inquiétez pas, j'ai filmé moi, j'ai sur vidéo, j'ai sur internet et tout ça, je vous l'enverrai, Bedrin Tachem, le film. Écoutez bien ce passage. Louis de Funès, on sait qu'il y en a qui savent, mais il y en a qui ne savent pas, qu'au départ c'était un antisémite notoire. Il a fait beaucoup d'avérot et tout ça, il était très 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 sonné Israël, il avait beaucoup de haine contre le peuple juif. Et un jour, du jour au lendemain, il est devenu philosémite, il a commencé à aimer les juifs. Après, comment c'est possible? Un homme, il commence à devenir philosémite alors qu'il était antisémite la veille. Comment c'est possible une chose pareille? Et quel était le moment où il a changé? C'était le moment de Rabbi Jacob. Comment c'est possible? La Torah nous révèle une chose ici, et c'est marqué dans les Mefarshim, c'est marqué dans les Gemarot et tout ça, que quand tu fais bouger l'extérieur, tu fais bouger l'intérieur. Pourquoi dans l'Amida tu es en train de te prosterner? Qu'est-ce que tu te prosternes comme une bougie comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta Amida? La Torah nous dit quand tu fais bouger l'extérieur, tu fais aussi bouger l'intérieur. Quand tu te déguises, sache que au fur et à mesure que tu es en train de te déguiser, au fur et à mesure que tu es en train de te déguiser, sache que cette chose-là, elle va avoir une influence et un impact sur toi. Rabbi Jacob, Louis de Funès, quand il s'est déguisé avec le Strymel, tu crois que toi, tu peux te mettre avec le Strymel, avec le truc, sans être pénétré, sans être traversé par un tant soit peu de proximité. Quand tu t'es déguisé en tzadik, tu as vu ce que c'est la Kdusha du Ham Israël, tu as vu ce que c'est la beauté du Ham Israël. Même ce marbou-là, il a changé. De la même façon, Rabotaï. Il dit, toi, tu es en train de te déguiser pendant ce mois. Tu es en train de te déguiser, en train de faire tchouba chez les mains, en train de faire des khumrot et prendre sur toi des mesures de piété, de grandes sadiques et tout ça. Sache que tu sortiras, comme quand tu rentres dans une usine de parfum, tu ressens toujours avec une odeur. Ce déguisement que tu as pris, quand tu vois combien c'est doux et combien c'est merveilleux de se déguiser en sadique. Comment tu vois, c'est magnifique, je suis un sadique maintenant. Regarde comment c'est beau, regarde comment c'est magnifique ça. J'ai le srou d'être un tzadik, mais finalement c'est pas si difficile que ça. Et regarde comment c'est magnifique, regarde comment je me sens proche d'Hachem, regarde comment c'est magnifique, regarde comment c'est beau. Ça ressemble à quelqu'un qui a vécu le Rosh Hashanah intensément. Il dit, il a plus envie de sortir de cette dimension, il a envie de rester proche de son créateur. Tu t'es déguisé pendant ces 10 jours. Habibi, sache que ce déguisement, il va tellement te plaire, tu vas tellement bien te sentir dans la peau d'un tzadik, que tu voudras devenir un tzadik, et tu voudras rester un tzadik. Et pour terminer, Moray Berabotaï. Je vais vous dire un petit peu en quelques mots, maintenant qu'on a vu que véritablement ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah et à Kippour, on doit demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur nos fautes. À Rosh Hashanah, on doit proclamer l'unicité et la royauté d'Hashem Yitbarach. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on veut dire Hashem Yitbarach, moi je n'ai qu'une seule vocation et qu'une seule volonté dans ma vie. Et c'est pas antinomique avec la réussite professionnelle, avec la réussite dans le chinour des enfants, avec la réfoua, avec toutes les choses. Il n'y a pas de différence. Si jamais toi tu demandes toutes les choses que tu reçois pour faire en sorte de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et pour faire en sorte d'être proche de lui et d'être à côté de lui, alors tout ce que tu demandes c'est magnifique. Mais ta vocation première et ce que tu dois placer au centre de l'image, c'est de faire régner Hachem dans le monde. C'est quoi faire régner Hachem dans le monde, Rabotaï? C'est de faire en sorte que la Neshama, elle règne sur le corps. Que les passions et les pulsions ils soient neutralisées par la volonté d'annuler notre volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le corps, c'est l'homme. À partir du moment où toi tu fais en sorte de faire régner la Neshama sur le corps, tu fais régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça le règne d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. C'est quand tu as réussi à neutraliser l'illusion de ce monde, l'illusion des passions et des pulsions. Un homme qui arrive à Rosh Hashanah, pourquoi il prie? À Kippour, pourquoi il est en train de prier? Rabotaï, je vous demande une question. Pourquoi on prie quand on arrive? Machalema d'Avardomé, on dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la panassa, donne-moi la refoua, donne-moi des milliards pour que j'aille là-bas me dorer la pilule. Un freshman ou freshwoman, ça dépend des hommes ou des femmes. Tu connais freshman et freshwoman. Si le gars il va commencer à se dorer à une fichier de souhait ou un shawarma là-bas, et après il va dire voilà, j'ai réussi mes vacances, comment elles se mesurent les vacances? Pas combien t'as fait bronzer ta neshama, combien t'as fait bronzer ton corps. T'es devenu une merguez ou la Fal Michael Jackson, il veut devenir noir. L'autre il veut devenir gris, l'autre il veut devenir blanc. Chacun qui est d'une couleur, il veut devenir d'une autre. Plus tu t'es bronzé, plus tu as réussi. On t'a fait devenir un steak. C'est ça que tu es devenu. On t'a réduit, on t'a minimisé cette neshama Kdosha et Teora Atsuma, qui est le Ensof. En quoi? Dans une khatiha de cheval que tu es en train de faire le Fal Marlon Brando là-bas, tu t'arranges là-bas ton brushing, un américain. Habibi, tu prends conscience de ce qu'on est en train de te faire devenir, ce que cette société de consommation et de masse média est en train de te dire, l'émancipation de la femme, oui, et tout ça, il faut être la libération de la femme, l'égalité entre les hommes et les femmes, et la parité, les ch'touillottes. Rabodaï, ça s'appelle la parité, quand c'est l'instrument d'utilisation de la femme à des fins commerciales. On te prend une femme, on veut te vendre une voiture, on te met une femme, on te vend une tomate, on te met une femme. C'est ça, c'est une honte. C'est une honte profonde et on te fait croire que c'est ça le kavod. L'émancipation de la femme, la libération de la femme. Habibi, c'est l'asservissement de la femme à des fins commerciales. C'est quelque chose d'abject et d'honteux. Gvoda bat meler ipnima, la Torah, elle te rafraîchit les idées, elle te fait un lavage de cerveau. La sainteté, la majesté d'une fille de roi, c'est son intériorité. Sheker achen vevelayofi shayrat Hashem yititalal. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté. Seule la femme qui craint l'éternel est digne de louange. Quelqu'un, il vient, il va commencer à faire des tfilotes le jour de journée de Kippour, tu le vois, il est fou, il est en train de prier, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça ressemble à quoi, Rabotaï? Et c'est sur ça qu'on va conclure. Le Rav Pinkus, qui était une grande lumière du Ham Israël, qui est Niftar assez jeune, c'était un très grand sadique, il a raconté un machal magnifique qui nous montre qu'est-ce qu'on fait ces jours-là et comment on fait des tfilotes. Ça ressemble à quoi cette période de Rosh Hashanah et de Kippour, ces 10 jours de Tshuva? Ça ressemble à un fils qui était le prince héritier. Il s'est embrouillé avec son père, le roi. Chaque fois, son père, il lui faisait un peu de morale pour qu'il se remette dans le droit chemin. Et l'autre, il ne voulait pas écouter, il restait sourd à toute tentative, à toutes sortes de choses et tout ça. Un jour, il s'est tellement énervé avec lui que le fils, il a décidé de fuguer. Il a dit, moi j'en ai marre et tout ça, on me fait toujours la morale ici, toujours on va me ramener à la vertu. Je prends mon baluchon, je vais là-bas, Phal Peter Pan, dans la nature. Je vais me faire une petite naturalisation là-bas, je me mets là-bas dans l'herbe et je vais communier avec les boucs et avec les chèvres là-bas dans la prairie. Le gars, il arrive là-bas, il marche au bout de quelques temps, il tombe dans un trou béant, il se casse une jambe. Mais grâce à Dieu, il avait quand même dans son baluchon le mercurochrome, le pansement des héros, vous connaissez. Le type, il avait le mercurochrome et tout ça, il avait un peu de nourriture, il a fait le kusham souya là-bas, il a commencé à faire des bons plats et ça, il était heureux. Et au bout d'un moment, le roi, il se réveille le lendemain matin, il dit, mon fils, où il est passé, et tout ça, il nomme et il mandate les deux plus fidèles serviteurs à lui. Il lui dit, vous allez aller et vous allez chercher et vous ne mettez pas les pieds dans le palais jusqu'à ce que vous ayez trouvé mon fils. Si jamais vous le trouvez, vous revenez, sinon vous ne mettez plus les pieds ici. Ils partent à la recherche là-bas, avec des provisions, bien sûr, et tout ça, les baluchons comme il faut, et tout ça, opération commando, on va rechercher le fils dans la forêt. Ils arrivent partout, ils cherchent plusieurs jours. Au bout d'un moment, ils arrivent et ils voient dans le trou, ah, ils trouvent le fils et tout ça, ils le trouvent bien amoché, il était bien amoindri parce qu'il n'avait pas mangé depuis un certain temps. Il était déjà bien affaibli parce qu'il s'était cassé quelques côtes et tout ça, Meskin. Alors à ce moment-là, il dit, ah, Bibi, comment tu vas et tout ça, on va s'occuper de toi. Ils étaient obligés de descendre dans le trou pour aller s'occuper et lui mettre les premiers soins et tout ça. Ils sont descendus les deux là-bas, c'est Marboulim. Ils vont là-bas pour s'occuper de lui, il lui prépare à manger, il lui dit comment tu vas, comment ça s'est passé, ah c'est magnifique, c'était le Gan Eden ici, j'étais bien et tout ça depuis quelques jours, c'était merveilleux, personne ne m'a fait la morale, j'étais tranquille et tout ça chez moi. Ils restent là-bas pendant quelques temps. Et là à ce moment-là ils se disent, le réflexe de celui qui veut survivre, comment on va faire pour sortir de là? Eux c'est vrai qu'ils se sont cassés moins les membres parce qu'ils ont sauté de très haut, donc ils se sont quand même cassés quelque chose. Mais ils se sont moins cassés, donc ils se sont dit comment on va faire pour s'échapper de là, on ne peut pas sortir. Alors là ils commencent à réfléchir. Et ils se souviennent qu'une fois dans l'année, le roi, avec sa cavalerie royale, il passe par cette forêt pour aller faire quelque chose, pour aller rencontrer ses partisans et ses sympathisants et tout ça, il va aller les voir et leur rendre visite et tout ça. Une fois dans l'année, ils se rappellent là-bas que c'était cette date-là, dans quelques semaines, donc ils se sont dit, écoutez, maintenant on va faire quelque chose de bien, on va faire le Tanit Sibour, on va arrêter de parler tout ça, de Tanit Dibour, pardon, on va arrêter de parler tout ça, comme ça on va garder notre voix, et dès que ça va arriver ce jour-là, on va réunir toutes nos forces, et on va hurler devant le roi jusqu'à ce qu'il entende notre voix, malgré les pas des chevaux et tout ça, le galop de Jumper et de Kiluk et tout ça. On va entendre nos voix, on va entendre nos choses, et à ce moment-là, on va nous sauver, ils vont venir nous attraper et tout ça. Ils attendent le moment propice. Plusieurs jours passent, ils s'affaiblissent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient Mugzdrin ou Mulohin. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ça veut dire qu'ils sont dans un matzav calamiteux, ils sont dans une situation très difficile. À ce moment-là, ils arrivent en train de passer dans cette forêt. Et là, il commence à crier « Mon roi, mon roi !» Le type, il est en extinction de voix presque, il n'arrive même pas à parler. L'autre, il dit ah, « Vas-y, toi, crie, parce que tu es plus frais que nous, tu as bu depuis moins longtemps. » « le roi !» Un petit peu plus fort. L'autre, « Le roi !» Il dit « Les gars, si jamais on continue à crier comme ça, on est perdu, on va mourir dans ce trou-là, on va se faire enterrer, au moins on n'aura pas besoin d'être enterré, on est déjà dans le trou. » Il a dit « Maintenant, il faut qu'avec l'énergie du désespoir, on prenne toutes nos forces et qu'on hurle tous en même temps « le roi, sauve nous !» Ils ont commencé à réunir leur énergie de désespoir, ils ont hurlé de toutes leurs forces. Le roi, sauve-nous. Le roi, il arrête toute sa cavalerie. Il dit, je reconnais la voix de mon fils. Je pourrais la reconnaître au milieu de tous les vacarmes du monde, au milieu de tous les bois. Cette voix, elle est tellement précieuse et tout ça. Mettez-vous à sa recherche. Il commence à le chercher partout et tout ça, avec Beethoven, le labrador fou et tout ça. Ils amènent les chiens, le Doberman, le berger allemand, le berger belge et tout ça. Ils commencent à trouver avec les chiens des drogues et tout ça. Les drogués eux-mêmes, ils viennent pour le chercher. Il commence à chercher partout et tout ça. Et là-bas, il le trouve. Le roi, il arrive. Il met sa tête. Imaginez-vous la scène. Il met sa tête. Ah, mon fils, comment tu vas? Je suis tellement heureux de te retrouver et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire et tout ça? Tu regrettes de t'être enfui de la maison, hein? Tu as été mieux avec moi, c'était mieux avec toi. Il dit, ah non papa, pas du tout. Il dit, comment tu vas papa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça me fait plaisir de te voir, mais je suis bien ici et tout ça. Il dit, et vous là, les serviteurs, vous avez besoin de quelque chose et tout ça? Il dit, mon roi, c'est vrai qu'on n'a plus de shawarma et on n'a plus de pitote, ni de falafel, ni de coca. Si jamais vous pouviez nous amener un petit convoi là-bas de la Croix-Rouge, là-bas de la Magen David Adom, vous faites venir là-bas un petit croissant, et quelques plats et quelques nourritures et tout ça, vous nous amenez, on pourra tenir un petit peu là-bas dans ce trou, ça sera très sympa. On vous remercie, notre roi, vous êtes très gentil avec nous. Vous pouvez nous laisser là-bas, mais à l'écart que vous nous amenez un peu de denrées. Et l'autre, il dit, ah oui, roi, je me suis égratigné un peu, si jamais vous pouvez amener un pansement là-bas, ça me ferait très très plaisir et tout ça. Rabotaï, quand on voit des gens comme ça, on les prend pour des maboules, on les prend pour des gens qui sont complètement grotesques et qui sont complètement fous. On s'est dit, mais c'est des fous, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils auraient dû demander? Dis, roi, je t'en prie, j'ai fauté. Je t'aime, tu me manques beaucoup, j'en ai marre d'être là. Je sens que je suis privé de toutes les bonnes choses et de toutes les bénédictions depuis que je suis dans ce trou là-bas, dans cette cabane. Je t'en prie, mon roi, fais-moi sortir de ce trou, que je revienne avec toi, que je sois à tes côtés. Et c'est ma boule là-bas, il demande, dis, hey, roi, laisse-nous dans le trou, mais amène-nous les bénédictions dans le trou. Laisse-nous à l'intérieur de ce trou-là. Il demande au roi de te sortir de ce trou. Rabotaï, ça c'est le machal, c'est l'allégorie. Mais le Nimshal, il fait encore plus peur. Cette histoire-là, c'est notre histoire avec Hachem. On s'est un petit peu rebellé contre Hachem, on s'est un peu éloigné de lui, on est parti, on a fugué, on s'est éloigné, on est parti dans l'exil, dans les profondeurs de ce théum là-bas. Ce trou-là, c'est l'exil dans lequel on est. On est dans l'obscurité profonde. On est dans une obscurité profonde. Et nous, on arrive, une fois par an, il y a le roi qui passe au-dessus. Il passe au-dessus de nous. Kerub et Otokarav, appelez-le quand il est proche, c'est les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Pendant les t'es en train de faire la tefila et ça, Kadol Borou, il est juste au-dessus de toi, il passe. Toi, tu dois sentir quoi à ce moment-là, Rabotaï? Et je vous donne le Yesod pour pouvoir sentir qu'est-ce qu'il faut faire dans la tefila de Rosh Hashanah, de Kippour. Quand tu dis, va y avoir Hashem al panav vaikra, à Kadol Borou, il est passé au-dessus de nous. Vaikra Hashem, Hashem, el rachum vechanun, erech hapaim, bevafreset vehemet. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois sentir que tu es au milieu d'un trou, que tu t'es cassé une jambe, et qu'à Kadol Borou, il passe au-dessus de toi. Et tu dois réunir toutes les énergies qui sont à l'intérieur de toi et hurler devant Akadosh Baruch Hu. Hashem Yitbarach, sauve-moi de ce trou, sors-moi d'ici, sors-moi de cette profondeur de l'exil dans lequel je suis. Je ne peux plus supporter d'être loin de toi. Je ne peux plus supporter d'être dans ce trou béant. Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui voit Akadosh Baruch Hu passer au-dessus de lui, il crie comme un fou. Rabotaï, ce cri, ce n'est pas forcément un cri qui est fort, mais c'est un cri qui sort du plus profond de ses tripes parce qu'il sait qu'il doit se sauver. Rabotaï, qu'est-ce qu'on fait nous à ce moment-là? Tu vois, tu es dans ce trou béant et tu arrives à Rosh Hashanah et à Kippour, le roi il est en train de passer au-dessus. Qu'est-ce que tu lui dis? Hachem, donne-moi un peu de parnassa s'il te plaît. Donne-moi un peu de santé. Donne-moi des mercurochromes s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu, donne-moi la tzlacha dans telle et telle chose. Donne-moi toutes ces choses-là. Habibi, tu es ma boule. Je parle pour moi le premier, Rabotaï, je ne suis pas venu vous faire la morale, je suis venu me faire la morale à moi, à me renforcer à moi, Bezrat Hashem. Et Bisrout, le chizouk que je prends, vous aussi vous vous renforcez avec moi, Bezrat Hashem. On est des grands maboules, Rabotaï. Au lieu de demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, comme il dit le Yerushalmi, Av, 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 Av. En araméen, on dit, donne, 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 donne. Les juifs, ils ressemblent, quand ils font cette filade comme ça, à des chiens. Av, 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 Av. Waf, Waf, c'est quoi? C'est le chien. Av, Av, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le chien, toujours, il veut prendre, toujours, il veut récolter, il veut collecter. Ah, donne-moi des choses. Il dit, toi, tu devrais demander une seule chose. Toi, qu'est-ce que tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu? Laisse-moi dans ce trou et amène-moi toutes les bénédictions dans ce trou. Mais Habibi, il demande une seule chose à Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, j'ai vécu Rosh Hashanah dans l'intensité, dans la Kdusha et dans la Tara. J'ai vu comment c'était magnifique et merveilleux d'être avec toi. Je t'en supplie, à Kadosh Baruch Hu, fais-moi sortir de cette pourriture et de cette profondeur de l'exil. Dévoile le kavod de ta majesté, dévoile la splendeur de ta majesté, viens régner, restaure ton règne dans ce monde-là. Viens à nos côtés, montre-nous que tu es avec nous. Dévoile-toi pour qu'on puisse te servir d'un cœur entier. Et mimer la rabotaille par voie de conséquence, toutes les bénédictions, elles sont contenues dans ça. Si tu sors de ce trou-là, il n'y a plus de problème de Parnassa, plus de problème de Refoua, plus de problème de Khinour Yeladim, plus de problème de rien du tout. Tu as toutes les bénédictions qui sont en une chose. C'est sur ça, rabotaille, qu'il faut se renforcer le jour de Kippour. C'est sur ça qu'il faut se renforcer à Rosh Hashanah. Rabotaille, c'est sur ces choses-là qu'on doit se renforcer. Et le Khatana Bar Mitzvah, il doit savoir une chose. Maintenant, il rentre sous le hall de la Torah et des Mitzvot. Il doit savoir que la Torah et les Mitzvot, c'est une Simcha Gdola et Atsuma, qu'il n'y a pas une Simcha plus grande dans la vie que ça. Et si tu prends conscience que toute ta vie, c'est pour faire en sorte de faire le Kavod d'Akadash Baruch Hu, et que tu appelles Hashem Yitbarak tous les jours dans ta prière, tu dis, Bourré Olam, je t'aime. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir beaucoup d'argent. J'en ai rien... Ce que je veux dans ma vie, c'est d'être proche de toi. C'est d'être à côté de toi. C'est de sentir que je suis à tes côtés. Je t'en prie, Akadash Baruch Hu, fais cesser le mépris qu'il y a dans ce monde par rapport à toi. Le Khilou Lachem qu'il y a, que nos pauvres frères, ils ne savent pas que c'est Shabbat et ils voyagent Shabbat. Qu'il y a des gens qui sont 100 000 personnes, Rabotai. 100 000 jeunes qui sont dans des sectes en Eretz Israël. Entre 10 000 et 20 000 femmes qui sont avec des Arabes. Rabotai, le Matzav de la génération, il est Nora Vayom. Sur ça, tu dois pleurer le jour de Kippour. Sur ces gens-là qui n'ont pas eu le Sroud et sur nous qui n'avons pas eu le Sroud d'appeler à Kadosh Baruch Hu du plus profond de nos tripes. On doit dire Ibono Shalola, maître de l'univers. Fais cesser le mépris de ton nom dans ce monde, dévoile le caveau de ta majesté. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément prêt à le recevoir parce qu'on a encore des averot, mais peu importe. Akadosh Baruch Hu, les mancha elokim chaim, pour ta gloire, pour toi, Akadosh Baruch Hu, mon bar mitzvah, si jamais tu as ça en face de tes yeux toute ta vie, que ce qui compte dans la vie, c'est pas de se mettre à soi au centre de l'image, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu au centre de l'image. Et toute ta vie, tu rechercheras l'ombre, tu rechercheras pas la lumière. Tu ne te mettras pas sur le devant de la scène, sur le devant des projecteurs pour qu'on dise ah voilà, c'est le patron, c'est le parrain de la mafia, c'est lui, Tony Montana et les siens et tout ça, c'est le grand pacha, il a 100 000 euros à la banque, tous les mois il tombe 100 000 euros et tout ça, c'est toi le patron. Si toi tu te mets à rechercher le kavod d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu as compris combien c'était magnifique d'être proche d'Hachem, tu as compris ce que c'est Rosh Hashanah, alors toute ta vie tu seras bégédère de tchouva, de faire toute une messirut nefesh et une guerre, la seule guerre contre qu'il y a dans la vie, c'est la guerre contre le Yetzera. Vous pourrez écouter sur les CD, j'ai amené quelques CD ce soir et des Sfarim, maman et tout ça. Ça s'appelle Quelques gouttes de lumière pour l'éternité, c'est sur toradelumière.com, j'ai un site et tout ça. Là-bas, on parle de la guerre contre le Yetzera. C'est ta guerre, mon frère. Demain, tu vas voir le Yetzera Tov, il est venu avec toi maintenant. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de Yetzera Tov, il n'y avait que le Yetzera. Maintenant, le Yetzera Tov, il est venu avec toi. Toute ta vie, tu devras combattre et lutter pour faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu soit content de toi. C'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu soit content de toi? C'est que toute ta vie, tu fasses en sorte de placer Hachem au centre de l'image. Si tu places Akadosh Baruch Hu au centre de l'image, lui aussi te placera au-dessus de toutes les gens et au-dessus de et à proximité de lui. Et tu as beau passer par toutes les situations dans ta vie, par tous les chemins, par toutes les épreuves, je te souhaite d'avoir que des bonnes choses, Bedrat Hachem. Mais si jamais tu as Akadosh Baruch Hu à côté de toi, il peut t'arriver n'importe quoi, tu pourras être comme David Ameler. Hachem li, velo ira maya sidi adam. Quand Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, j'ai beau avoir les milliards d'Iraniens qui sont autour de moi et qui veulent ma destruction et qui clament haut et fort l'éradication et la destruction des restes israéliens de la Kaaba. J'ai beau avoir tous les milliards de gens qui sont autour de moi et qui veulent ma destruction. Mais si jamais je suis avec Akadosh Baruch Hu, que j'ai son bouclier, que j'ai sa proximité, personne ne peut m'atteindre. Parce que c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le patron du monde. Alors Bedrat Hashem, que tu sois zoché, toi et toute ta famille et tous les gens qui sont présents ici, de se renforcer, de faire tchouva chez les mains, d'être zoché badin et Bedrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu soit mezaké otanou, qu'on voit le Bet Amigdash, Bimera Beyamenu, Bedrat Hashem.